Avec votre invité ce soir, Aurélie, l'économiste et professeur au Collège de France, Philippe Aguillon.
Bonsoir Philippe Aguillon.
Bonsoir.
Emmanuel Macron explique aujourd'hui que la France doit rebâtir sa souveraineté et fabriquer davantage de masques, de respirateurs. Cet hymne à la souveraineté, c'est un virage pour le chef de l'État ?
Écoutez, je ne crois pas que ce soit vraiment un virage dans le sens que ça fait longtemps qu'il pousse pour ce qu'on appelle une politique de l'offre, c'est-à-dire de dire voilà, il faut que notre industrie, notre production devienne plus compétitive et il faut créer un certain nombre de conditions pour qu'elle le soit. Quoi, voilà, donc je ne pense pas que ce soit une rupture en ce sens. Mais c'est vrai que aujourd'hui a été clairement affirmée l'idée de dire voilà, il faut qu'on, tout en reconnaissant l'importance de la mondialisation, des échanges internationaux, il ne s'agit pas de se lancer dans une politique protectionniste, mais d'affirmer davantage un contrôle sur les chaînes de valeur. Voilà, je crois que ça, c'est important. Et à faire un peu comme l'Allemagne fait. L'Allemagne n'est pas un pays fermé, mais l'Allemagne contrôle une fraction plus importante de ses chaînes de valeur.
Mais c'est du pain béni quand même malgré tout pour Marine Le Pen, ce discours sur la souveraineté, ou pour Jean-Luc Mélenchon qui plaide pour des relocalisations.
Non, l'idée c'est pas ça tellement. C'est pas de dire on va mettre des barrières douanières, on va mettre des. Mais c'est de dire voilà, il faut davantage de politique de l'offre. Par exemple, moi j'ai regardé les composants de tests Covid. Vous savez, il y a un nombre de tests qui sont administrés. Eh bien, la France est importatrice nette des composants de tests et l'Allemagne est exportatrice nette. Elle exporte et elle importe beaucoup l'Allemagne. Donc l'Allemagne est une économie ouverte, il ne s'agit pas d'être une économie fermée. Mais l'Allemagne s'est donné les moyens d'être à la fois importatrice et exportatrice. Et nous sommes net importateurs et à des niveaux beaucoup plus bas que l'Allemagne. Voilà, donc c'est un exemple. Il y a les masques en est un autre, les respirateurs c'est un autre exemple. Donc je pense que dans des secteurs comme celui-là, c'est important. Mais c'est pas juste national d'ailleurs, je crois que le président a été très clair. L'idée est de dire qu'il faut une politique industrielle qui soit pas juste française, qui soit également européenne.
Alors il y a les tests, effectivement vous en parliez, il y a les masques, il y a les respirateurs, bref ce qui concerne l'indépendance sanitaire. Vous diriez qu'aujourd'hui on paye un peu la stratégie industrielle de la France de ces dernières années et pas forcément que depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron ?
Oh oui, ça remonte à bien avant le quinquennat, c'est-à-dire que en France il y a eu une désindustrialisation excessive. Voyez, donc il y a des choses qui doivent être délocalisées, je crois beaucoup dans la spécialisation internationale, mais on est allé nous trop loin, tout ce qui était productif dans nos chaînes de valeur ont été nous en France délocalisés, alors qu'en Allemagne ils ont délocalisé certaines parties certains maillons de la productive de la chaîne, mais ils ont valorisé d'autres maillons. L'industrie allemande pèse presque deux fois et demi plus que la française. Et dans certains secteurs, c'est beaucoup plus fort. Machines, équipements, l'Allemagne, c'est 6 fois plus que la France. Dans l'automobile, c'est 5 fois plus. Dans les équipements électriques, l'Allemagne, c'est 4,5 fois plus que la France. Voyez, par exemple, il y a des secteurs comme ça qui sont très importants. Entre 2000 et 2010, on décroche dans les secteurs que je vais vous mentionner. Et l'Allemagne, elle, bondit. Le secteur des machines, équipements, l'industrie automobile... en 10 ans, les excédents ont doublé en Allemagne. Et nous, on est passé d'un excédent à un déficit. Les équipements électriques, les excédents ont doublé en Allemagne. La France part d'un léger excédent à un déficit. La chimie a triplé son excédent quand la France a à peu près maintenu le même faible excédent. La pharmacie allemande a quadruplé son excédent entre 2000 et 2010. Et la France améliore le sien à la marge. Vous voyez, il y a des nombres de raisons qui font que l'Allemagne fait mieux que nous.
Alors vous le dites, l'Allemagne fait mieux que nous, mais alors Philippe Aguillon, Emmanuel Macron veut y remédier ces prochaines semaines, ces prochains mois, mais quand la désindustrialisation, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est à l'œuvre depuis de nombreuses années, c'est possible de faire machine arrière ?
C'est pas vraiment retourner en arrière, vous voyez ce que je veux dire ? Je crois beaucoup dans l'innovation, vous voyez, je ne crois pas qu'on doit revenir à nos vieilles spécialisations. Et c'est pas par les tarifs douaniers et par la protection. C'est là que je me sépare de Madame Le Pen ou des souverainistes, comme on dit.
C'est par de produire en France ce dont on a besoin.
Oui, c'est-à-dire d'abord essayer d'avoir une politique plus active de recherche, d'innovation, et de faire un certain nombre de choses qui font qu'on est plus compétitif. Voilà. Et alors on a commencé à le faire. Vous voyez, quand, par exemple, le CICE, puis les lois El Khomri, puis les lois Pénicaud, puis la flat tax, tout ça, c'est des éléments qui nous ont permis de devenir plus compétitifs. Donc ce n'est pas que nous n'avons rien fait. Depuis disons, le CICE, nous avons pris un certain nombre de, disons, de décisions qui nous ont rendus plus compétitifs. Et on est un pays plus attrayant pour les investisseurs étrangers. Donc, je pense qu'on s'est engagé depuis plusieurs années dans une politique de l'offre. Mais il faut aller plus loin. Et il y a, à mon avis, des secteurs clés dans lesquels il faut une action industrielle plus soutenue. Pas juste France. France est également avec d'autres partenaires. Moi, je crois beaucoup dans ce que j'appelle une DARPA franco-allemande. Vous savez, à l'image de la Defense Advanced Research Project Agency que les Américains avaient créé au moment de la guerre froide, ils sont devenus, le laser est venu de là, l'Internet est venu de là, l'espace, évidemment. Et nous, on devrait créer une DARPA en France, mais aussi en coordination avec nos voisins. Et je crois beaucoup dans des initiatives de ce genre pour affirmer notre puissance industrielle, comme le fait la Chine, comme le font d'autres. Mais ça ne veut pas dire mettre des barrières douanières.
Pas mettre des barrières douanières. Philippe Aguillon, la crise aujourd'hui, évidemment, du coronavirus, elle est sanitaire, elle est aussi économique. Le gouvernement prévient déjà que le choc sur l'économie sera violent et probablement durable. Oui. Vous avez une estimation de l'impact sur l'économie française ?
Alors écoutez, il y a eu, par exemple, mes collègues Christian Gollier et Stéphane Straub proposent une estimation de coin de table, mais qui me paraît assez réaliste. Ils disent, voilà, supposons que pendant 2 mois, on produise la moitié de ce qu'on fait d'habitude. C'est Et bien à ce moment-là, ça coûterait donc 2 mois à la moitié, donc ça fait une réduction d'à peu près 8% du PIB. C'est un chiffre optimiste parce que le retour à la
pleine activité. C'est-à-dire, c'est quoi, plus de 200 milliards d'euros ?
Alors, comme le PIB est à 2500 milliards, ça veut dire que si on veut arriver à 10%, c'est à peu près 250 milliards. Moi, je vois un coût, disons, de 300 milliards à peu près. Alors, il faut comparer ce coût aux 16% que nous ont coûté la crise de 29 et les 50% qu'a coûté la Seconde Guerre mondiale. Donc on est quand même très en deçà, mais ça va bien coûter 300 milliards.
Et comment est-ce qu'on peut l'atténuer au-delà de ce qu'a déjà lancé le gouvernement ?
De toute façon, il y a différentes actions qui doivent être faites. Donc déjà, il va falloir remettre en état notre appareil hospitalier et puis traiter la crise sanitaire. Ensuite, il y a une grosse crise de la demande. Les gens les plus frappés, c'est les emplois précaires, les travailleurs indépendants, les commerçants et petites entreprises qui risquent la faillite. Il va falloir soutenir ces gens-là à travers les allocations chômage, le maintien des prix d'activité, les extensions de prêts, les crédits d'impôt. Donc là, il va falloir cibler. Et là, c'est vraiment une relance par la demande. C'est une relance keynésienne, comme on dit nous, dans le jargon des économistes. Il va falloir soutenir la demande de toutes ces catégories-là. Ça va coûter beaucoup d'argent. Donc il y a la première chose, c'est la crise sanitaire qui est le coût des investissements sanitaires. Puis il y a la relance de la demande. Et ensuite, il y a la politique de l'offre dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on veut moderniser notre appareil industriel et notre recherche. Vous savez qu'on sous-investit en recherche fondamentale en France par rapport à l'Allemagne. Donc ça part de la recherche jusqu'aux innovations de rupture. Vous voyez, on a toute une chaîne de production, d'innovation et de production où on sous-investit. Et donc là, il y a également des gros investissements à faire.
Un dernier point, Philippe Aguillon. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, lance un appel à la solidarité nationale via une plateforme de dons en ligne qui sera lancée dans les jours qui viennent. Dans l'opposition, certains disent que c'est le rôle des impôts, la solidarité nationale. Est-ce que rétablir l'ISF tel qu'il existait, ce ne serait pas une idée dans cette crise ?
Écoutez, je sais pas. Dans le passé, donc les dettes publiques ont augmenté, notre dette publique va augmenter, c'est évident. Et la question, évidemment, qui va payer la note. Bon, une partie, ça sera la croissance de long terme. Donc je crois qu'il ne faut rien faire qui bloque la croissance. Parce que si vous bloquez la croissance, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc je pense que la France a fait un certain nombre de décisions qui ont, justement, comme je dis, encouragé les investissements en France, relancé la machine, fait baisser le chômage. Donc je crois qu'il ne faut pas contrarier ces politiques-là, vous voyez. Donc je pense qu'en partie, c'est la croissance qui va nous permettre de financer ces 300 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il n'est pas impensable qu'on ait recours à un moment donné à des emprunts obligatoires. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, on a des souscriptions forcées d'emprunts d'État. C'est possible. Je ne dis pas que c'est ce que va faire le vous voyez, mais ça sera fait sur beaucoup d'années. Mais je pense qu'il y aura probablement un aspect emprunt également. Mais je vois ça plutôt que le rétablissement de l'ISF. Vous voyez, je vois plutôt la croissance et le recours à des emprunts. Voilà, je pense que déjà là, on peut faire beaucoup de choses.
Eh bien, merci beaucoup, Philippe Aguillon, d'avoir été mon invité ce soir.